Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osney, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant de l'association Osez en parler, expert sur le site c'estmavie.tv, chroniqueur sur le site pigeonfuté.com. Pasteur Philippe Osney, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, on entre dans le vif du sujet tout de suite.
Oui.
Voilà. Jésus est la vérité. Lui seul peut nous rendre libres. Voilà. C'est le programme que nous propose l'Évangile. Encore faut-il choisir d'y adhérer, bien sûr. Choisir entre la vie et la mort, encore faut-il reconnaître où est la vie.
Tout est une question de discernement, hein, là.
Oui, oui. Et là, donc, c'est à voilà. On a un guide aussi pour nous aider à discerner. C'est l'Esprit Saint. On a tout ce qu'il faut.
C'est l'Esprit de Dieu, oui, qui est une personne. Rappelons-le. Hein. Les gens pensent que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui plane. On ne sait où. On ne sait où. Et en fait, l'Esprit de Dieu est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne.
Oui, oui, oui.
Et on en parlera pendant cette émission. C'est un thème vaste et intéressant. La vérité. Qu'est-ce que la vérité?
Qu'est-ce que la vérité? Alors, bah oui, Pilate, voilà, hein, on va voir. Mais peut-être voyons tout de suite, si nous cherchons, dans le dictionnaire,
hein. Oui, on va rester simple, Chantal.
Voilà ce que nous dit dans le monde, enfin le langage courant.
Oui, donc en fait, la vérité, c'est la conformité à ce qui est réel. Et les synonymes, il y en a deux que j'ai retenus, qui sont les plus importants. Ce sont les mots authenticité et sincérité. Alors, bien que Chantal, on peut sincèrement se tromper aussi.
C'est ce que j'allais dire.
Donc ça ne suffit pas. Oui, hein, oui. Il y a l'authenticité également. Et puis cette parole que Jésus donne, « Je suis la vérité ». Il n'y a que lui qui a pu le dire, d'ailleurs.
Oui,
personne ne peut le dire, même le plus grand croyant sur la surface de cette terre, même les, j'allais dire, les chefs des différentes églises chrétiennes ne peuvent pas l'affirmer.
Mais bien sûr. Mais lui, il est homme, mais il est Dieu aussi.
Il est l'homme et il est Dieu. Et ouais. Donc, c'est au nom de ces deux dimensions qu'il va affirmer qu'il est la vérité. Hein. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6. Hein. « Je suis le chemin ». La vérité et la vie. On va se borner pendant cette émission, Chantal, à parler de la vérité.
Oui, la vérité. Alors, vérité, puisque lui seul peut nous rendre libres. Alors peut-être, on peut dire qu'est-ce que la liberté et comment est-elle définie dans le dictionnaire?
Alors, donc, la liberté, c'est vrai, c'est un petit peu le deuxième mot-clé dans le titre de notre émission. Qu'est-ce que c'est? C'est cette possibilité de penser, d'agir, de se mouvoir sans contrainte, sans contrainte. Les synonymes, il y en a deux également que j'ai retenus, ce sont les mots affranchissement et autonomie. Autonomie.
Et là encore, c'est le sens courant du terme, parce que même dans le sens courant, on perçoit que ce sont des concepts qui touchent la personne dans son fondement.
Oui, oui, et en plus de ça, la vérité, elle est subjective. Je veux dire, ce qui est vérité pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre.
À chacun sa vérité, c'est une pièce de Pirandello.
Chacun sa vérité, voilà. Alors, je dirais que en chacun de nous, le fondement, ça doit être la vérité.
Oui.
Mais encore faut-il que cette vérité, j'allais dire, elle soit vraie, quoi.
Ben hein, oui.
Parce qu'il y a la vérité fausse. Dont on ignore la fausseté d'ailleurs.
Hein. Oui, en toute bonne foi.
En toute bonne foi.
Oui, oui, peut...
Mais on acquiert de la maturité avec l'âge. Et on se dit, tiens, ce à quoi je croyais avant, finalement, c'est pas vrai. Ou ce n'est plus vrai. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies.
Dans notre progression, voilà, on se construit.
Pendant une période de temps, cette chose-là est vraie, mais elle n'est plus vraie ensuite. Pourquoi ? Parce que les événements ont changé.
Elle est partielle.
C'est partiel. Les événements, les personnes, les situations ont changé. Hein. Alors tout ça, il faut en tenir compte. Et traiter de cette émission, c'est justement aller dans plein d'endroits. On va essayer de j'allais dire de disséquer ce qu'est la vérité. Et pour ça, on va faire plein de détours par-ci par-là. On va prendre les petits chemins de forêt, hein. Et ça va être agréable.
Ben oui, on va se promener à travers tout cela. Alors peut-être quelques citations d'écrivains ou de penseurs, hein, parce que.
Oui, alors
la vérité, ça fait voilà, comme c'est au cœur de l'homme cette recherche, forcément les penseurs, les écrivains.
Bien sûr, ils en ont parlé, ils ont écrit sur ce sujet. Alors c'est Georges Braque par exemple qui a dit ceci et ça date des années je sais pas qu'est-ce que je dirais 1940 ou 1950. Il a dit ceci: la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Alors, on trouve cette citation dans Le jour et la nuit, chez Gallimard. Hein. La vérité existe, on n'invente que le mensonge. Voilà. Alors maintenant, la question se pose, comment discerner le vrai du faux, donc la vérité du mensonge. Alors, on en parlera. On a aussi Louis Bourdaloue qui a dit ceci: aimons la vérité qui nous reprend et défions-nous de celle qui nous flatte.
C'est une sagesse, ça. Hein.
Ça, c'est de la sagesse. Alors, c'est dans son sermon sur l'amour et la crainte de la vérité. Donc, aimons la vérité qui nous reprend. C'est vrai que quelqu'un qui ne veut pas progresser, qui ne veut pas se remettre en question, ne peut pas accéder à la vérité. Il va se figer dans quelque chose. Et comme je disais, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain, si ce n'est la parole de Dieu. Donc, il est dit qu'elle subsiste éternellement,
hein,
éternellement. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, elle. Hein, et c'est la parole de Dieu qui a créé le monde.
Hein. Au début, au commencement. Hein,
oui, c'est par sa parole. Et c'est vrai que ce fondement de la parole de Dieu est immuable, ne change pas. Et d'ailleurs, tout ce qui contredit cette parole, on peut se poser la question si c'est vrai. Si c'est vraiment dans la vérité et dans la lumière.
C'est une mesure, hein, vraiment là pour discerner.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je parle d'un tamis, je parle de... Voilà, vous parlez, Chantal, d'une mesure. C'est vrai que la vérité, elle a besoin d'être mesurée, hein, tamisée, elle a besoin d'être testée, contrôlée.
Et d'avoir une référence.
Alors, la référence, on le sait, c'est pas un être humain. Tous ceux qui ont cru détenir la vérité en tant qu'être humain unique se sont cassés la figure piteusement.
Et ont donné des dictatures.
J'allais le dire. Là, vous m'avez volé ma parole, Chantal, voyons. Ça a donné des dictateurs.
Oui, oui.
Des dictatures.
Oui.
Il faut faire très attention à la dictature. Quand il y a un homme, que ça soit au niveau religieux ou politique. Hein,
oui, à tout niveau.
Quand c'est un homme qui coiffe tout, quand c'est trop pyramidal. Hein.
Oui, oui.
La place maintenant est un collège de personnes,
oui, tout à fait, oui.
De penseurs, hein, de réformateurs, de gens qui vont se confronter les uns aux autres et confronter la vérité.
Et s'enrichir aussi des différences.
S'enrichir. Alors ça, c'est très important parce que on l'a vu par exemple au niveau politique, la Russie d'autrefois.
Oui.
Moi, je m'en rappelle, je les voyais, ces chefs d'État russes figés. Ils avaient 80 ans. Ils arrivaient à peine à marcher.
Ouais.
C'est tout juste si on pensait pas que si derrière il y avait pas une pompe à vélo et qu'on leur insufflait de l'air pour qu'ils tiennent debout. Non, mais franchement, en tant que gamin, je me disais, mais comment il tient debout encore celui-là? Hein, j'ai vu tous ces chefs d'État. Et alors, la vérité, c'était le communisme. Hein, et tout ce qui sortait des idées du communisme, c'était du mensonge. Mmh. Et la religion chrétienne était un mensonge. Hein, et les chrétiens étaient emprisonnés.
Ben oui.
Bon, alors ça c'est de l'histoire, hein, ancienne, quoique de nos jours, il y a toujours des persécutions, des chrétiens qui maintiennent que la parole de Dieu est la vérité, ils se font interner à cause de ça, ils se font mettre en prison. Ça existe toujours. J'ai rencontré notamment un chinois, un prédicateur chinois, il y a quelques années, qui a fait de la prison.
Ben oui, bien sûr.
Il prêchait l'évangile, et sans retenue, hein. Lui, c'était pas derrière une chaire, dans une petite église, il prêchait partout. Mais il a été mis en prison, il a été flagellé, battu. Les détenus dans cette prison, et j'ai son livre, hein, les détenus dans cette prison le mettaient dans la fosse à purin, hein, la fosse à excréments humains, et puis ils venaient uriner sur lui. Hein, alors qu'il était dans la fosse, il avait droit à ce traitement très régulièrement. Ah, tout ça à cause de l'évangile. Bon, alors, passons là-dessus, bien que passer par-dessus c'est difficile, mais c'est pour dire que rien ne se fait sans heurts, et quand on croit que Jésus est la vérité, on va se faire persécuter si on l'affirme trop et trop fort.
Oui, d'une façon ou d'une autre.
Oui.
Ben, on voit saint Paul, hein, ce qu'il a vécu.
Ah oui.
Hein,
ah
dès
oui.
le départ.
Dès le départ. Et lui-même persécutait.
Ben oui, lui-même.
Les chrétiens.
Il est passé de persécuteur à persécuté.
Oui, c'est ça. Et il a dû faire de la prison. Et la plus belle œuvre qu'il a faite dans sa vie, c'est dans la prison. Les lettres, les épîtres de Paul ont été écrites en prison.
Oui.
Et nous lisons 2000 ans après, nous nous nourrissons toujours de ce qu'il a écrit en prison. Comme quoi
la liberté, elle dépasse les murs, elle passe à travers les murs.
Mais c'est ça, Chantal. Oui. C'est tout à fait ça.
Oui.
La liberté, on peut la vivre en prison aussi. Et je suis sûr qu'il y a des amis détenus qui nous écoutent. Je dis des amis parce que ce sont mes amis, ce sont des êtres humains, ce sont mes frères,
bien
ce sont mes sœurs. Hein, il se trouve que pour beaucoup d'entre eux, ils ont fait quelque chose qui n'allait pas un jour. Et alors, est-ce qu'on n'en fait pas tous des choses qu'il ne faut pas? J'allais dire que certains se font choper et d'autres non. Et puis certains, c'est vrai, ont une vie avec moins d'écart et d'épreuves que d'autres. Mais il y a peut-être quelques personnes détenues qui m'écoutent de plusieurs établissements pénitentiaires en France. J'aimerais les saluer et vous dire, à vous personnellement, à toi qui m'écoutes, tu peux être libre en prison. Parce que la liberté, c'est d'abord dans le cœur. Bien sûr, il y a la liberté physique d'aller et venir. Et etc. Plein d'autres libertés.
C'est ce qu'on disait quand on disait la définition tout à l'heure. Cette liberté, il y a une liberté profonde.
Oui, elle est dans le cœur.
Oui.
Quelqu'un peut être libre à l'extérieur, mais vivre un enfer.
Ben oui.
Et vivre une prison. Une prison à l'extérieur.
Bien sûr.
Hein, des prisons. Et certaines personnes détenues, par un travail sur eux-mêmes, moi je suis un ancien aumônier de prison, un travail sur elles-mêmes, eh bien, elles peuvent faire en sorte de se lever le matin, de dire bonjour Seigneur, tu es là, je suis là avec toi, allez, je suis libre. Et c'est pas quelques barreaux métalliques ou quelques grillages dans le ciel, qui des filets en fait, ce sont des filets.
Oui.
C'est pas ça qui va m'enlever ma liberté.
Et certains ont fait l'expérience, ont rencontré le Seigneur en prison. Hein.
Ah ben bien sûr.
Il y a
Jacques Fesch.
Jacques Fesch, bien sûr. Jacques-Yvan Thuyn, qui, voilà.
Tout à fait. Aussi, d'ailleurs, moi, hein. j'ai écrit avec lui une petite brochure sur ce sujet.
Ah oui.
On a coécrit quelque chose ensemble.
D'accord.
Oui.
Et puis, il y a une association, d'ailleurs, pour les sortants de prison à Christ. Enfin, c'est... Je ne sais plus exactement les initiales, mais ça fait Christ.
Oui.
Et puis André Levé aussi, il a rencontré, il a demandé au Seigneur, si tu existes, viens me rencontrer.
Oui.
Et à 2h du matin, au moment où il dormait profondément, il lui a dit, André, nous avons rendez-vous.
Voilà.
Voilà. Et alors, la cellule, il s'est réveillé, la cellule était complètement illuminée de lumière.
Mais bien sûr, et on peut l'expérimenter ça dans les réunions de prière de nos églises ou de nos groupes de prière. On se met à prier. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est en prière, on n'a plus la notion du temps, de l'espace et de rien.
Oui, on est dans une autre dimension.
On est dans une dimension spirituelle qui fait qu'on est libre, même si on a les pires problèmes, les pires fardeaux. Tout à coup, on est transfiguré. Et Jésus a expérimenté cela, d'ailleurs, le récit de la montagne de la Transfiguration. Oui. Et puis, il l'a expérimenté dans d'autres domaines.
Et il l'a fait expérimenter à ses disciples qui étaient là. Et ils étaient tellement bien qu'ils voulaient rester.
C'est ça, dressons des tentes.
Mais bon, après, il faut repartir en mission. Hein, quand on a vécu cette lumière-là, il faut aller la donner, bien sûr.
Oui. Alors, cette liberté, donc, on disait que... Et finalement, c'est celle qui nous libère à l'intérieur de nous-mêmes.
Un grand merci, pasteur Philippe Osné. Je rappelle le téléphone pour nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Nous allons écouter tout de suite, c'est la chorale de la maison des étudiants catholiques de Lyon, justement.
Eh bien, bienvenue au Lyonnais, moi j'habite à Lyon.
Ben voilà, c'est ça. Donc c'est un petit clin d'œil au pasteur Philippe Osné, vous voyez. L'attention délicate de François, notre programmateur, et c'est la prière de Saint François d'Assise. Ah.
Radio Notre-Dame.
cette prière de Saint François d'Assise par la chorale de la maison d'étudiants catholiques de Lyon.
Et grâce aussi à notre technicien qui s'affaire derrière sa console avec fidélité pendant les émissions.
Bien sûr, parce qu'autrement on n'aurait rien.
Eh bien on ne pourrait pas faire grand chose. Hein.
Non, c'est lui qui ouvre et qui ferme
et voilà.
Le micro. Donc voilà, il faut qu'un micro soit ouvert ou fermé.
Oui, puis chacun a sa fonction.
C'est un échange, voilà.
C'est comme dans le corps de Christ, hein, l'Église, c'est son corps. Il n'y a pas de petite fonction, il n'y a pas de petite mission.
Chacun a sa place et sa fonction.
Chacun a sa place et doit d'ailleurs être heureux et fier de sa place, hein, si minime soit-elle.
Bien sûr. Un petit rouage, et puis ça ne fonctionne plus.
Il n'y a qu'à voir une montre ou une horloge. Hein. Suffit d'un tout petit grain de sable.
Ouais.
Alors l'huître, elle a la capacité, elle, d'enrober le grain de sable qui rentre dans l'huître. Et ça devient une perle nacrée. Elle a cette capacité. Et c'est à cela qu'on est appelé, nous aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que quand il y a un grain de sable qui rentre dans notre vie, alors un gros morceau de rocher, parce que des fois, il y a des épreuves plus lourdes que les patates. Hein.
Oui.
Eh bien, il faut avoir cette capacité, après un temps où, bien sûr, on est en détresse et on accuse le coup, il faut que nous ayons cette capacité de nous dire, voilà, cette épreuve, je vais la rendre utile, je vais la transformer, je vais rebondir, je vais la tourner en bien. Et dans la Bible, on voit tous ces hommes qui ont connu des échecs, qui ont subi des persécutions aussi, des injustices.
Je comprends.
Eh bien, ceux qui ont triomphé sont toujours ceux qui ont eu cette capacité d'attendre et de transformer petit à petit les épreuves en victoire. Et j'ai souvent dit sur cette antenne, mais il y a un proverbe chinois, je crois, qui dit « goutte à goutte, l'eau creuse la pierre ». Et moi qui suis allé dans les sous-sols, qui ai fait de la spéléologie, j'ai vu tout cela. Ces stalactites et stalagmites qui se rejoignent à un moment donné pour former une colonne.
Oui.
Hein, il est dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Hein.
Ouais.
Eh bien, j'ai vu ces stalactites donc qui tombent et les stalagmites qui montent. Ce sont des petites gouttes d'eau.
La création est pleine de signes. Hein,
Et du calcaire se dépose, mais il faut des millions d'années. Alors j'ai vu tout
patience,
ça de mes yeux.
Oui.
J'ai vu tout ça de mes yeux et ça m'a encouragé. Et j'ai vécu dans ma vie des épreuves. Vous aussi, je pense, Chantal.
Chacun ici pourrait en témoigner.
Et il y a certaines épreuves qui ne peuvent se résoudre que par la patience, savoir serrer les dents, même si ça grince. le temps dévoile la vérité. Notre émission, c'est sur la vérité.
Oui.
La vérité se dévoile. Au bout d'un moment.
Bien sûr.
Parce que Jésus l'a dit, rien ne peut, tout sera dévoilé, rien ne peut rester caché.
Mm.
Tout sera mis à nu et découvert.
Donc la patience.
La patience.
Obtient tout.
Et à la fin des temps, il y aura un jugement, hein, quand Jésus l'aura, quand le Père l'aura décrété, et c'est Jésus qui sera là avec lui, mais il y aura un jugement et toutes les actions des hommes qui ont choisi le mal volontairement, qui ont choisi de tricher, tout ça, ça sera dévoilé devant tout le monde. Parce qu'il y a une différence entre le mal que je fais sans voir que c'est mal.
Oui, bien sûr.
Et tout à coup, on m'éclaire.
Et là, donc, je change de cap.
Je peux changer, je peux dire, mince, je me suis trompé. Ou alors, je t'ai blessé, excuse-moi mon frère ou ma sœur, je t'ai blessé. Voilà, ou ce que j'ai dit finalement, non, c'est faux. Parce que à l'époque, j'avais pas les éléments que j'ai maintenant.
Mmh.
Faut savoir reconnaître quand on s'est trompé.
C'est limité,
celui
oui.
ou celle qui triomphe toujours, c'est celui qui sait s'abaisser. Et s'abaisser devant nos enfants, par exemple. Si on a été trop dur envers un enfant. Moi, j'ai 6 enfants et je viens d'avoir un 7e. C'est une petite fille. Voilà. 7, ça fait 6 plus 7, et puis ça va continuer. Hein, mes enfants, il m'est arrivé de leur demander pardon. en tant que père, par exemple, il y a une gifle qui est partie trop vite, quoique maintenant, il ne faut plus mettre des gifles, mais à l'époque, on en mettait. On mettait des claques, quoi, hein, où on tirait les oreilles. Bon, mais il y a des moments, même oralement, on est un peu dur, on est énervé, on revient du boulot, et puis on invective nos enfants. Il faut savoir leur dire, voilà, chérie, papa, il te demande pardon, il était énervé tout à l'heure. Mais l'enfant pardonne volontiers.
Ben oui.
Et on se grandit quand on fait ça. On grandit notre autorité. Mais si on s'entête en faisant croire à notre enfant qu'on est parfait, on lui rend pas service. Parce que comme on lui fait croire qu'on est parfait, lui n'arrivera pas à être parfait précisément.
Oui.
Et il va se décourager. Il va se dire, je pourrais jamais être comme papa et maman.
Puis il aura un mauvais modèle.
Ça donne des enfants qui ont des dépendances plus tard. Qui auront besoin du plaisir, qui auront besoin de béquilles pour tenir. Parce qu'ils n'arrivent pas à être parfaits, et ça veut dire qu'ils sont normaux.
Ben oui.
Hein? Alors, attention, en tant que parent, quelquefois, faut reconnaître qu'on s'est trompé. On va peut-être continuer, Chantal.
Ça rend libre, comme ça. C'est la vérité qui rend libre.
Mais bien sûr. Oui. Ça nous grandit, ça rend libre, et puis ça libère l'enfant.
Alors, là, nous avons eu des définitions, de la vérité.
Oui, c'est ça. Alors,
selon le monde, enfin selon, oui, on peut dire.
Oui, il y a plusieurs auteurs dont j'ai noté les citations.
Pour
Dali,
oui.
André Malraux qui a dit ceci: la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. C'est intéressant ça.
Oui.
Et c'est vrai en chacun de nous.
Oui.
On cache des parties de nous-mêmes dont on a honte. Alors, ça ne veut pas dire que ces parties-là, d'ailleurs, sont dans le mensonge ou sont mauvaises en soi. Mais tout n'est pas bon à dire ni à montrer. Et la transparence a des limites. Hein, quelqu'un me disait, à force d'être transparent dans une équipe, on ne se voit plus. C'est pas mal.
Oui.
C'est pas mal. Alors, mais j'aime bien cette citation d'André Malraux.
Il y a les ombres, c'est pour voir l'ombre et la lumière, oui.
Oui, c'est ça. Alors, Blaise Pascal, donc, a dit ceci: la vérité subsiste éternellement. Et ça rejoint la Bible.
Ben oui, ça, ben oui, Pascal.
Ça rejoint la Bible. Et puis Jean Paulhan, donc, qui est né à Nîmes et qui a été de l'Académie française. Jean Paulhan, a dit ceci: tout ce que je demande aux politiques, c'est qu'ils se contentent de changer le monde sans changer la vérité. Là encore, c'est tout à fait applicable de nos jours.
Oh bah oui,
ce sont des choses que des grands auteurs ont écrit.
Mais oui, parce que oui, c'est finalement c'est tout le temps. Hein. Enfin, lui, c'est un contemporain quand même.
Oui, bien sûr, oui.
Mort en 1968. Oui.
Oui, c'est ça. Et nous avons Émile Zola, hein, qui est né à Paris et il est décédé à Paris. Donc, il est né en 1840 et il est décédé en 1902. Il a dit ceci: une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Voilà, c'est une image qui est intéressante.
On voit que c'est ça, que la force, elle est dans la vérité.
C'est ça. Et la vérité est lumière.
Oui.
Mais pas n'importe quelle lumière. Parce qu'il y a une lumière qui peut être ténèbre. Hein, et y a des ténèbres qui peuvent être lumière aussi. Hein. Et quand on parlait de l'épreuve tout à l'heure,
ben oui, qui cachent une lumière.
Qui contient une lumière. D'où l'importance de la patience dans nos vies. Alors, quand on est jeune, on est fougueux. On est impulsif. On veut tout de suite. Et d'ailleurs, on fait des erreurs à cause de ça.
La patience, c'est...
Voilà. Mais on a besoin des jeunes pour leur enthousiasme.
Ben bien sûr.
Parce qu'ils nous remettent en question, parce qu'ils nous secouent. Et c'est complémentaire.
Hein. Oui, tout à fait.
Voilà. Et puis, on a besoin des anciens. Et les anciens, ils ont appris quoi? Ben, on les représente souvent sur un banc, hein. Ils sont assis, notamment en Corse. Et s'il y a des amis corses qui nous écoutent, on les salue.
Bien sûr.
Qu'on les aime, les Corses. Alors, on voit ça, et c'est connu là-bas, ces vieillards sages, dans les villages. Ils sont assis sur un banc devant leur maison. Ils s'appuient sur une canne. Et puis, ils parlent pas beaucoup. Mais ils pensent, ils réfléchissent, ils sont sages. Ils ont appris à patienter. Et puis, vous savez, il y a aussi les trois singes.
Hein, ah oui.
Les trois singes, ne rien voir. Il y a un, oui, donc, oui. Ce sont comme des statuettes de singes qui sont accolées ensemble. Et il y a un singe qui a ses mains sur ses yeux, donc qui veut dire ne rien voir.
Oui.
Un autre singe qui a ses mains sur les oreilles, donc ne pas écouter. Et puis, un autre singe qui a sa main sur la bouche, ne pas parler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais écouter, qu'il faut jamais parler et qu'il faut jamais voir.
Oui, bien sûr.
Mais il ne faut voir que ce qui est souvent que ce qui est positif ou vrai. Il ne faut dire que ce qui est vrai. Il faut essayer, du moins, hein, entendre, voir et dire.
On sait bien que la parole, elle peut être à double tranchant, bonne ou mauvaise.
Ah, mais on peut tuer quelqu'un par une simple parole. On peut tuer quelqu'un. Et nous avons tous reçu des paroles négatives de la part d'autres. Hein. L'autre jour, je joins quelqu'un au téléphone. On discute 3 minutes, il me coupe la parole. Excusez-moi Chantal, je vais dire une grossièreté sur notre radio. Il me dit, tu n'es qu'un con, tu es comme mon beau-frère. Tu n'es qu'un con. J'ai dit, ah bon ? Je suis un con. Et puis il a dit, de toute manière, ça m'intéresse plus de discuter avec toi. Il m'a raccroché au nez.
Alors, bon.
Alors je lui ai envoyé un SMS en lui disant, sois béni, que Dieu te garde. J'ai bien enregistré que le qualificatif de con. Prends soin de toi.
Vous avez transformé.
Oui. Et puis j'ai voulu mettre sur lui la paix.
Ben oui.
La paix. Lui, c'était comme une malédiction. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Cette parole, tu n'es qu'un con. Bon, ben moi, j'ai voulu lui dire, mais tu es quelqu'un que j'aime. Et je lui ai mis, je t'aime dans le Seigneur. Hein, je lui ai mis. Et en retour d'une malédiction, ben j'ai un petit peu fait ce que Jésus disait. Il disait, aimez vos ennemis. Hein, bénissez, ne maudissez pas. On doit arriver à bénir les gens qui nous font du mal.
Oui, parce que bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en eux, c'est plus fort.
Oui, et peut-être un manque de discernement où ils ont pas tous les éléments.
Oui, oui.
Et puis ils se trompent. De toute manière, c'est jamais bon de faire comme ça, de d'invectiver les autres. Ou si on l'a fait, ben faut essayer.
Ben voilà, de se rattraper.
De dire, écoute, voilà. Et moi, ça m'arrive, bon, pas forcément d'invectiver les gens, mais de me tromper et d'être injuste. Bon ben, j'essaie de dire un petit mot après, puis de dire, écoute, allez, t'occupes, tu... Vas-y, voilà.
Que là, ça a dépassé
Ça a dépassé ce que, vraiment, voilà, et tiens pas compte de ça, et je m'en excuse. Et c'est comme ça que la vie communautaire, elle marche. Il faut se demander pardon les uns aux autres.
Le pardon est très important, bien sûr.
Voilà, savoir demander pardon et savoir recevoir le pardon. Il y a deux volets.
Oui. Hein, oui, le demander et l'accueillir.
Oui. Hein, croire que l'autre nous a pardonné.
Oui.
Et ne pas le fuir en conséquence. Ne pas se croire rejeté par lui. Mmh. Alors ça s'apprend. Et une civilisation ne peut vraiment prospérer que si elle apprend à vivre ensemble par ce lien du pardon qui est donné et reçu.
Oui, le pardon.
C'est important, ça.
Demander, oui, c'est ça.
Oui.
Donner et reçu, oui.
Oui, Chantal. Et quelqu'un qui ne pardonne jamais, c'est quelqu'un qui va vivre dans le rejet toute sa vie, et c'est quelqu'un qui va s'isoler. Alors, rappelons que nous ne sommes pas appelés à l'indépendance, mais à l'autonomie.
C'est différent.
C'est bien différent.
Oui.
Nous ne sommes pas appelés à l'indépendance. L'indépendance, Adam et Ève, ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus indépendants de Dieu. Nous ne devons pas devenir indépendants, mais autonomes. C'est plus beau que l'indépendance. C'est-à-dire, on est toujours rattaché, par exemple, à Dieu en tant que chrétien, mais on est autonome. C'est-à-dire, Dieu nous dit pas forcément, fais ci, fais ça, lève-toi, brosse-toi les dents.
Heureusement, oui.
Malheureusement. Hein. Ça, c'est le principe des dictatures. On force les gens à penser comme l'idéologie nous le dicte à nous. Et on n'a pas le droit de faire ça. C'est du viol de conscience.
Bien sûr.
Hein, les abus idéologiques, psychologiques, c'est du viol. Et dans le mot viol, il y a aussi violence. Hein, je veux dire, ce sont deux mots similaires.
Et les enfants, par rapport aux parents aussi, ils deviennent autonomes au fur et à mesure, mais ils restent dans une relation.
Voilà. Et heureusement. Et le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Et j'aimerais m'adresser aux parents, là, maintenant, qui m'écoutent. Ton enfant n'est pas ton enfant. Il n'est pas ta propriété. Ton enfant, c'est celui qui est venu au travers de toi et qui un jour te quittera. Mais il te quittera, pas forcément dans la haine, bien sûr, et dans le rejet, mais il va s'identifier à lui-même et il faut que tu sois prêt à le perdre. Alors, tu vas pas le perdre véritablement, mais tu vas le libérer.
Eh oui.
Le laisser partir. Tu le laisses partir et il fait sa vie. Oui, vont me rétorquer certains parents, oui, mais mon enfant va faire des erreurs. Mais ce sont les erreurs qui nous apprennent à ne plus en faire.
Oui, il faut apprendre.
Hein, c'est quand on s'est brûlé en touchant la cafetière, on ne l'a pas tenue, enfin, bien que maintenant il n'y a pas tellement de cafetières comme autrefois, mais autrefois, les vieilles cafetières étaient en ferraille, et puis il fallait pas y mettre la main, hein, parce
oui,
que c'était,
ça brûlait.
Alors, ça s'apprend, l'enfant. Il désobéit à ses parents. Il met sa main sur la cafetière, il hurle. Et puis.
Mais il recommence pas après. Parce
il recommencera plus jamais de sa vie.
Voilà. Alors, merci. C'est l'éducation, ça.
C'est l'éducation.
La vie vous éduque. Merci, pasteur Philippe Osenet. Je rappelle.
Merci, Chantal.
Le téléphone et nos auditeurs 01 56 56 44 00. Nous écoutons tout de suite les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Jésus s'est consumé d'amour.
Radio Notre-Dame.
C'était donc les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Jésus s'est consumé d'amour.
À visiter d'ailleurs le Sacré-Cœur de
Montmartre. Oui, ben je comprends.
À visiter, c'est vraiment magnifique. Et il y a une paix intérieure qu'on ressent.
Mais oui,
pour pénétrer là, parce que c'est un lieu de prière.
Oui.
Je crois 24 heures sur 24. Hein.
Oui, jour et nuit.
Donc, voilà, fréquentons des lieux comme ça, où il y a des priants.
C'est ça.
Des gens qui prient.
Prient jour et nuit.
Maison, ça peut être une maison, oui. Une villa ou une église.
Ça se sent d'ailleurs voilà. Les lieux de
bah, bien hein, sûr, de prière, ils sont habités. Oui. De même que les lieux qui sont habités par d'autres esprits, on le ressent également.
Bien sûr.
On se sent très très mal. On n'arrive pas à dormir, par exemple, dans certains lieux. Ça, c'est dans certains hôtels, par exemple. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, il y a peut-être un peu de sorcellerie.
C'est mal habité. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Jésus et la vérité, lui seul, peut nous rendre libres. Nous méditons, nous réfléchissons et méditons sur cette parole. Et nous avons en ligne tout de suite Jackie. Bonsoir Jackie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jackie.
Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Père.
Pasteur.
Pasteur Philippe Bosnet.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, d'accord.
Alors
Je vous appelle, mon téléphone n'est pas très bien, mais enfin, je vous entends un peu mal.
Nous, on vous entend bien.
J'ai ma radio.
C'est bien, mais allez-y, Jackie, on vous entend bien.
Oui,
hein?
Bon, je voulais intervenir sur ce qu'il a dit, Pasteur Bosnet. Donc, il a dit, comment dirais-je, la vérité sur la vérité, c'est vrai. Bon, et, comment dirais-je, la vérité, c'est quelque chose que, bon, j'ai donné un exemple là. C'est comme on peut mélanger de l'huile et de l'eau. On peut mélanger de l'huile et l'eau. Mais l'huile passe toujours en surface. C'est un exemple, hein.
Oui,
c'est
oui,
dire
oui.
Que, comment dirais-je, la vérité finit toujours par triompher.
Ah, c'est beau, c'est une parabole, ça, hein.
Pardon?
C'est une parabole, hein, oui, voilà, oui. Basée sur, la, sur
oui,
l'observation.
Ça finit toujours par triompher. Donc, c'est sur la vérité, c'est ça que je voulais intervenir, quoi. C'est vraiment vrai ce qu'il dit, Pasteur Osney. Donc, voilà, donc, même si vous arrivez quelque part, bon, on ne vous connaît pas, bon, vous savez, tout le monde porte un masque, hein. On a tous un masque. Mais ce masque-là, un jour ou l'autre, ça tombe.
Mais c'est vrai, et c'est la patience qui fait la différence.
Ouais,
il faut savoir attendre.
Oui.
Justement pour que cette huile qui est dans l'eau, qui ne s'est pas... elle s'est mélangée à l'eau, mais il n'y a pas eu osmose entre les deux éléments. Avec le temps, cette huile va remonter à la surface. Et une mare, c'est pareil. Hein. Une mare, on prend un bâton, on tourne dans la mare, il y a plein de vases qui remontent. On passe le lendemain matin, les dépôts sont au fond et l'eau est presque pure en surface.
Voilà.
Oui, mais c'était un bel exemple.
C'est
ça,
très beau ce que vous avez trouvé là.
Oui, ça parle, les images, ça parle. Hein.
Oui. Et dans la nature, justement, on trouve plein de règles, on trouve plein d'éléments qui nous font penser à la spiritualité. C'est normal, puisque la nature a été créée par un être spirituel, Dieu. Donc la nature ressemble à Dieu, comme l'être humain ressemble à Dieu.
C'est pourquoi on peut lire dans le livre de la création, hein, et comme vous le faites ce soir pour nous, Jackie.
Oui.
En tout cas, merci de... Ben voilà, d'avoir illustré.
Mais le père Philippe Osnet, qu'il vienne souvent, parce que bon, mes amis et moi, on l'adore trop.
Ben il vient,
oui. Oui, mais il a dit qu'il habite Dijon, donc s'il faut mettre en cotise pour payer son transport, pour
venir. Lyon.
Vous êtes extrêmement gentil, et vos amis aussi. Alors maintenant, je suis descendu plus bas que Dijon, vous voyez. Tous les 3-4 ans, je descends un petit peu plus vers le soleil.
Ah, c'est bien.
Et maintenant, je suis à Lyon, où je suis bien là-bas.
D'accord.
Voilà, et je prends mon TGV pour venir faire l'émission.
On va cotiser, vous payez le pied.
Ah là là, vous êtes gentil.
Merci beaucoup, vous aussi.
Merci
Jackie.
Merci Jackie. Allez, au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Jackie. Voilà, ben une belle image, hein, Saint Philippe Osnet, de l'eau et de l'huile et de l'eau.
Qui ne sont pas miscibles en soi.
C'est ça.
Mais on peut les agiter, en les agitant, on peut les faire que les deux se mélangent. Mais ça va jamais être homogène.
Et c'est vrai aussi chez des personnes. Si, enfin, je veux dire,
mais
des unions
Chantal.
Qui sont comme ça, ça peut être une union,
oui.
Mais qui finit par se dissocier parce que des éléments qui vont pas ensemble, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, il y aura toujours un petit peu de ça.
Bien sûr.
Dans ce qu'on vivra. Mais faut pas que ça devienne exclusivement comme cela.
Oui, oui. Hein? Bah, c'est-à-dire, l'altérité, on est tous différents, donc forcément. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit une différence qui empêche la communion.
C'est ça. Donc, il y a des éléments en nous, j'allais dire, qui sont miscibles, mm-hmm. hein, avec d'autres éléments des personnes qui nous sont proches.
Oui.
Mais tout n'est pas miscible, bien sûr.
Voilà, hein,
mais il y a quand même des éléments. Bon,
oui.
Par exemple, deux chrétiens qui prient ensemble, il y a le même Saint-Esprit, c'est pas négligeable, le même Dieu.
Oui, bien
à
sûr.
À l'intérieur.
C'est hein. même l'essentiel.
Il y a aussi deux êtres nouveaux. Oui. Si ces personnes sont converties, comme on dit dans notre jargon, ah, oui. Eh bien, ce sont des nouvelles créatures, nous dira la Bible.
Mm.
Nouvelles créatures, des êtres nouveaux. Alors, ça aussi, c'est un point commun.
Hein? Bien sûr.
Et puis il peut y avoir la même pensée, hein? Le même cœur, le même amour.
Oui, bien sûr.
On peut très bien aimer quelqu'un qui est différent et qui est plein de défauts.
Mmh. Bien sûr.
Hein? Et la vérité vous rendra libre, c'est Jésus. Hein? Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Et la vérité vous rendra libre.
C'est ça.
La vérité, c'est, il faut pas croire que c'est le fait de vivre totalement dans la lumière.
Mais non, mais c'est tout.
Personne
le travail
n'en est capable.
Bien sûr. Mais c'est tout le travail qu'on a à faire sur Terre.
C'est le travail qu'on fait, oui, sur Terre, sur nous-mêmes,
oui.
par rapport aux autres et par rapport à Dieu. En fait, il faut essayer de se tenir dans la vérité, c'est-à-dire dans la lumière. Hein? Et quand on se tient dans la vérité, quelquefois on a fait et on fera des erreurs. Mais il faut les reconnaître. Et se tenir dans la vérité, c'est ça. C'est toutes les zones d'ombre, les zones de ténèbres en nous ou dans notre activité. On est appelé à les dévoiler, toujours avec patience et amour, et à les mettre à la lumière. Ben, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne quelque chose qui fonctionne bien, quelque chose sans trop de heurts.
Hein? C'est un chemin de conversion. Hein?
C'est un chemin de conversion, de sanctification.
Oui.
Et toutes les fois où on cache trop les choses, hein, on cache tout le temps, on cache, ben, au bout d'un moment, ça devient étouffant.
Bien sûr.
Et les gens sont gênés, d'ailleurs. Ils sont gênés, ils le sentent, par intuition. Ils disent, c'est pas clair. C'est pas clair.
Faire la lumière en soi, hein, la vérité, c'est la lumière.
Oui.
Faire la vérité en soi et aimer cela, avoir ce désir.
Oui, oui. Et Pilate disait, qu'est-ce que la vérité?
Ben oui.
Hein, on retrouve les paroles qu'il a prononcées dans l'évangile de Jean aussi. Et cette fois-ci, c'est le chapitre 18, au verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Voilà. Et Jésus répondra... on a ces paroles. Je suis la vérité. Ben, chapeau Jésus. Il est la vérité. Autrement dit, plus je laisse Jésus diriger ma vie, plus j'essaie de ressembler à Jésus, plus je me tiens dans la vérité. Si évidemment je fais un travail sur moi-même pour changer ce qui a besoin d'être changé.
Ben oui, bien sûr.
Parce que c'est pas parce que j'ai Jésus qui est la vérité en moi, que je suis forcément vrai entièrement moi-même.
S'il est là, lui qui est la lumière et la vérité, avec lui, on va pouvoir...
Voilà, sa vérité va éclairer peut-être ma fausse vérité. Mmh. Parce que j'ai des fausses vérités en moi.
Et plus sa lumière va éclairer, plus on va le voir.
C'est ça.
Obligé de le voir.
Oui.
Si on est de bonne foi et qu'on désire. Parce qu'on peut, si on... se bouche les...
Ah ben oui, si on croit qu'on est... Moi je dis souvent, il y a des chrétiens qui se prennent pour des petits dieux. Et je le dis sans jugement. Hein. Ils se prennent pour des petits dieux. Ils ont tout compris. Ils savent tout. Ils ont lu la Bible. Alors ils savent tout.
La perfection, quoi.
Oui, c'est voilà. Perfection, donc... voilà, une poudre, une lessive qui lave plus blanc que blanc. C'était Coluche qui disait, ah bon, plus blanc que blanc. Ben alors, qu'est-ce que c'est que le blanc? S'il y a du blanc, plus blanc que blanc. Et je me souviens, qu'est-ce qu'on pouvait rire quand il disait ça. Et c'est vrai que, on l'a dit en début d'émission, il y a certaines vérités en nous qui ne sont plus bonnes pour la suite.
Elles ont été à un moment
temporelles.
Donné. Oui.
Et donc, il faut savoir se remettre en question. Il n'y en a qu'un seul qui ne change jamais, c'est Dieu. Il ne change pas. Et avec lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est une drôle de notion de temps et d'espace qu'on a avec lui, mais c'est pourtant ça. C'est pourtant ça.
Mais c'est paradoxal, hein. Ça nous déstabilise, ces notions. Oui. Mais ça montre que, justement, c'est fait pour.
Mais oui, et quel que soit l'âge, il faut savoir se remettre en question. Et peut-être il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont un certain âge. Quand à un certain âge, on se fige, parce qu'on a vécu, parce qu'on a de l'expérience, on se trompe quelquefois. On a toujours des choses à apprendre.
Bien sûr, la vie, elle est
c'est
infinie,
un perpétuel
hein.
recommencement. Il n'y a qu'une seule chose qui ne changera jamais, je l'ai dit, c'est Dieu et la vérité de Dieu, qui est Jésus-Christ. Pourquoi Dieu ne change pas c'est pas qu'il n'évolue pas, c'est que il est complet en lui-même, il est parfait. C'est pour ça qu'il change pas.
Oui.
Mais nous qui sommes imparfaits, nous devons changer. Et à 80 ans, reconnaître qu'on s'est trompé, c'est faisable. C'est faisable. Oui. 85 ans, 90 ans. Ma maman a 95 ans. On a fêté au mois de janvier. 95 ans. Voilà,
c'est
l'ancienne.
Beau.
L'ancienne.
La sagesse.
Voilà. Et là, quand on l'a au téléphone, on dirait une femme de 50 ans.
Parce qu'elle est jeune d'esprit.
Elle est jeune d'esprit, elle a conservé toute sa vivacité au niveau de l'esprit. Il n'y a que le corps qui a du mal, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai fait pour ces 95 ans, enfin, je raconte ma vie, je ne devrais pas, mais c'est très court.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Je me suis déguisé en livreur de fleurs.
Ah,
j'ai mis une blouse blanche, des lunettes de soleil, une fausse barbe, un chapeau. Et j'ai sonné, je suis allé acheter des fleurs au nom de toute la famille et j'ai sonné à sa porte. Alors que je lui avais dit, maman, tu sais, je suis très enrhumé en ce moment, je sors pas de chez moi. Il y a quand même, entre nos deux domiciles, 600 kilomètres.
Ah oui, c'est pas la porte à côté.
Donc la veille, je lui avais dit, oh, moi, faut pas que je sorte ce week-end, je suis trop pris, je suis pas très bien. Donc,
comme ça, elle s'attendait pas du tout.
Non, et voilà qu'à 15h, le jour J, je sonne à sa porte. Et elle me fait monter. Oui. Elle me fait monter. Puis elle dit, posez les fleurs là. Voilà. Puis elle les regardait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pris une autre voix, bien sûr. J'ai dit, c'est pour un anniversaire. Elle me dit, oui. Ah, je dis félicitations. Puis je m'approche d'elle. Et je lui fais un gros bisou. Alors, à ce moment-là, elle a eu un doute. Elle se dit, un livreur de fleurs qui m'embrasse. Et là, dans son oreille, je lui dis « Bon anniversaire, maman ». Elle m'a fait « Quoi ?» Mais « Quoi ?» Voilà. Et elle a pleuré 3 fois dans l'après-midi.
Oh, bah elle était émue,
d'émotion.
Que son fils.
Et puis moi, je tremblais un peu aussi, parce que je me disais, pourvu que je n'occasionne pas une crise cardiaque ou quelque chose. Donc je tremblais. Alors on a tremblé les deux. Enfin voilà, ça c'est une anecdote.
C'est beau,
c'est une anecdote, mais on peut changer encore à cet âge-là. Hein.
Et oui.
Et il y a des vérités en nous, je le redis une troisième fois, qui ne sont plus vraies. Qui ne sont plus bonnes.
Ben oui.
Hein, il faut savoir évoluer. Sinon, on va s'éclairer toujours avec des bougies. Mais non, mais sans blague.
Bien sûr.
On va vivre comme les gens d'autrefois, qui par ailleurs vivaient bien également.
Oui, mais c'était à ce moment-là. Hein,
voilà.
Bien sûr.
Voilà. Alors, il faut savoir évoluer. Dans les choses où c'est nécessaire.
Bien sûr. Hein, positif, mais, bien sûr.
Voilà. Mais pour le reste, il ne faut pas céder.
Il y a du discernement là aussi à avoir.
Ah oui, il y a des éléments sur lesquels on ne doit pas faire de braderie. Hein.
Et puis savoir utiliser justement tout ce qui évolue, mais l'utiliser dans le bon sens, parce que
c'est ça.
Il faut discerner là encore.
En le conformant
à la vérité
de la parole de Dieu.
Qui rend libre.
Qui rend libre.
Oui, et ça, là c'est un bon moyen pour aller plus loin à ce moment-là.
Bien sûr, Chantal.
Mais oui.
On n'a pas tout compris, c'est pas vrai. Mais en tout cas,
on est sur un chemin,
on ne va pas à comprendre.
Voilà, on
Allez.
Commence avec nos auditeurs qui nous rejoignent au 01 56 56 44 00 et on se retrouve tout de suite après 23h.
Radio Notre-Dame.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03 42 11 03 03.
Pour nous écouter, pour nous réécouter, rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, nous sommes en compagnie du pasteur Philippe Osnay, qui est aussi auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant d'association Osez en parler, expert sur le site c'estmavie.tv, chroniqueur sur le site pigeonfuté.com, et puis il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes qui souffrent. Voilà, donc ce soir nous parlons de la vérité, mais la vérité est une personne, Jésus. Jésus est la vérité, lui seul peut nous rendre libres. Peut-être on a déjà commencé à voir dans... On a vu d'abord les expressions qui disent la vérité, la liberté dans le dictionnaire, la vie courante. Puis nous voyons dans la Bible maintenant... en feuilletant la Bible, on a déjà évoqué plusieurs passages. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Hein, et puis, la parole de Pilate, qu'est-ce que la vérité?
Oui.
Alors, c'est vrai que la vérité, il y a d'autres passages, Jean parle beaucoup dans l'évangile de Jean.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Et notamment, ce qu'on peut... Jean rapporte, c'est que Jésus commençait souvent ses enseignements, ses affirmations, en disant « en vérité, je vous le dis ».
Oui, c'est ça, oui. Alors, justement, en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire?
Il veut dire qu'il y en a qui ne parlent pas en vérité.
Bah oui.
Qu'il y a des propos, même religieux, qui quelquefois... ne sont pas la vérité.
Oui.
Quand c'est extrémiste, quand c'est trop intégré, je veux dire, dans le sens d'une fixation sur un mot plutôt que sur l'esprit de ce mot, par exemple, etc. Alors, on retrouve dans tous ces enseignements les paraboles, par exemple. Il dit souvent « en vérité ». Et si Jésus insiste... en utilisant ce vocabulaire, c'est qu'il veut bien nous dire qu'il y a des charlatans, qu'il y a des gens qui prétendent être envoyés par Dieu et qui vont quelquefois nous dire des mensonges ou du moins des choses inexactes.
Des faux prophètes.
Des faux prophètes, oui. Et Jésus en a parlé. Mmh. Méfiez-vous des faux prophètes. Hein. Mmh. Ils viennent à vous habillés en vêtements de brebis, mais ce sont des loups. À l'intérieur. Alors les faux prophètes, ça se discerne.
Oui.
Mais c'est pas toujours évident. On peut tomber sur la coupe d'un faux prophète, de faux enseignements.
Alors là, c'est
de sectes.
C'est dangereux, oui.
De groupements sectaires.
Oui.
Et on devient aveuglé. On devient aveuglé. Et dans ce cas-là, ce n'est plus Jésus qu'on suit, mais c'est un homme ou une femme. Tous ceux qui commencent à s'établir par eux-mêmes, prophètes de ceci, de cela, prophétesses de ceci, de cela, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et je rappelle, et je sais que mes amis catholiques ne me contrediront pas, que Dieu a donné l'Église aussi pour discerner ces personnes.
Hein? Bien sûr.
Quand quelqu'un commence à prendre trop de poids, trop de pouvoir, et dans mon jeune âge, j'ai été un peu comme ça, c'est pour ça que j'en parle. Hein? On dit qu'il faut que jeunesse se passe. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce sens, et je m'en suis vraiment mordu les doigts. Et j'ai blessé des gens. Attention à la prise de pouvoir. Même au nom du religieux. On n'a pas à pénétrer dans la vie intime des gens au point de violer leur être intérieur.
Hein? Bien sûr.
Donc, on doit annoncer la vérité, mais laisser les gens libres d'évoluer, de changer ou non.
À leur rythme.
Et toute personne
dans leur liberté,
qui met la barre trop haut, qui exige trop des autres, eh bien cette personne, on en parlait tout à l'heure, en parlant des parents qui exigent quelquefois trop de leurs enfants.
Oui.
C'est pas bon de faire ça. C'est pas bon parce que, comme je le disais, l'enfant, il se décourage au bout d'un moment parce qu'il sait qu'il peut pas être parfait. Et moi, mon propre père, sans le vouloir, a fait des erreurs avec moi sans le vouloir. Je suis plein d'amour envers lui. Il est décédé maintenant, depuis longtemps. Ça fait 30 ans qu'il est décédé. Mon père me prenait à l'écart souvent pendant mon enfance. Et il me montrait le bord des tapis. Et il me mettait la main sur l'épaule. « Tu vois, Philippe, me disait-il, ta vie devrait être droite comme le bord de ce tapis. » Les angoisses que j'ai eues toute mon enfance en cherchant à obéir à mon père, donc en m'interdisant le péché, en m'interdisant l'erreur, eh bien, ça faisait qu'en classe, par exemple, je parlais jamais. J'avais peur de faire une erreur en parlant. J'avais peur.
Alors, je pense là, c'est... Peut-être que
oui,
Jean-Christophe
Chantal.
Voulait dire, excusez-moi.
Ah oui,
c'est Jean-Christophe, on n'arrive pas à le joindre, mais il disait trop d'exigences pour des performances amène à la dépendance.
Oui.
En quoi et pourquoi?
Oui, alors je me suis peut-être mal expliqué, j'en ai parlé tout à l'heure. Si on exige trop des gens, et je vais reprendre un petit peu le message de notre ami Jean-Christophe, c'est ça, si on exige trop des gens et qu'on leur demande de performer sans cesse, comme le père qui dit à son gamin, t'as eu 18, t'aurais dû avoir 19. T'es le deuxième de la classe, c'est pas bien que tu deviennes le premier. Ça, c'est un père qui tyrannise son enfant.
Ben oui.
Hein? Bon, alors, on mène les gens à la dépendance. Pourquoi? Les gens ne peuvent plus nous suivre au bout d'un moment. Mais comme ils veulent continuer à nous obéir, du moins à nous ressembler, ils vont utiliser des produits de substitution ou des personnes en substitution. Et là, je parle de la dépendance émotionnelle ou affective, qui peut devenir sexuel ensuite. Ils vont donc utiliser des béquilles, tout à l'heure j'ai parlé de béquilles, pour arriver quand même à performer. Et là on les plonge dans le mensonge. On les plonge dans des dépendances qui deviennent néfastes et qui vont les détruire dans le temps.
Ben oui.
Et ça c'est involontaire. Voilà. À tous ces grands hommes d'affaires qui parcourent le monde avec des jets et tout ça, j'ai rien contre. Je veux dire, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Et moi, je leur tire mon chapeau. Je dis, c'est bien. On a besoin de chefs d'entreprise comme ça. Mais ceux qui vont dans l'extrême, qui ne s'occupent plus de femmes et enfants, qui ne s'occupent plus que de leur profession et que de faire du chiffre. Et là, je parle des commerciaux. C'est pas facile d'être commercial. Parce qu'il faut rapporter du chiffre à son patron. Et pour ça, il faut quelquefois piéger les gens ou les abuser. Et leur vanter des produits en les trompant un peu. Et là, quand on voit les réclames à la télévision, les publicités. Je suis désolé, il y a des publicités mensongères. Il y a des jouets qui sont pris, des jouets qui sont tout petits, hein, ils tiennent dans une main, je parle de la période de Noël. Et il y a des caméras qui vont les prendre sous des angles, comme pour montrer que ce jouet est immense, qu'il est exceptionnel, etc. Bilan, on achète le jouet, et au bout d'une semaine, il est cassé. Il ne tient pas la route. Hein. Alors, le mensonge, c'est rentrer dans une voie où on sait très bien qu'on ne pourra pas rester dans la vérité. Hein. Et exiger trop des autres, ou de soi-même. Mmh. Ou de soi-même. C'est se prendre pour Dieu. Alors qu'on n'est pas Dieu.
Bien sûr. Mais je crois que, justement, dans des écoles maintenant commerciales, il y a une certaine éthique des jeunes qui comprennent ça.
Ah, il faut. Oui, oui, oui. Il faut, parce que sans éthique, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette société? Qu'est-ce qu'on va devenir au niveau mondial, on prend une très mauvaise voie. Je veux dire, il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Et le nombre de riches, parallèlement, ne cesse d'augmenter. J'ai lu un article récent sur le sujet, bien documenté. Le nombre de personnes riches ne cesse d'augmenter sur la planète. Le nombre de pauvres, en parallèle, ne cesse d'augmenter également. Est-ce que c'est juste ça? Et alors, dans cet article, on disait que il faut satisfaire les gens riches. Alors, il y a par exemple quelqu'un qui a payé très cher le fait d'aller au-dessus de l'Himalaya ou je sais pas où. Et puis, il y a une entreprise spécialisée avec un hélicoptère qui a débarqué sur le sommet un sauna. Grandeur nature. Et le gars, il est allé faire son sauna au sommet de l'Himalaya ou d'une autre montagne. Il est allé faire son sauna et il s'est payé ça. Et il était fier devant les autres. Il y en a un autre, il s'est fait raser la barbe en plein désert. Où il s'est fait installer par des spécialistes, donc un fauteuil de barbier, un barbier professionnel, des petits meubles. Voilà. Et il y en a un autre qui a voulu se payer le fait de dormir dans l'eau, dans une chambre en verre. Alors il s'est fait construire cette chambre en verre qui a été immergée pas trop profond, hein, parce que sinon ça n'aurait pas tenu. Et alors on dort sous l'eau, quoi. Voilà. Et on paye ça. La peau des fesses.
C'est effarant. Eh bien,
moi je dis c'est injuste. Mmh, bah ouais. Parce qu'avec le prix d'un machin comme ça, on aurait pu sauver des dizaines et des dizaines de personnes.
Bah oui, qui n'ont pas de quoi vivre, voilà. Avoir un
alors,
logement.
Vivre dans le mensonge, c'est pas forcément être riche. C'est mal utiliser sa richesse. Et l'utiliser à des fins égoïstes.
Parce que des personnes riches peuvent justement l'utiliser pour
distribuer, faire du bien. Et il y en a qui le font.
Mais oui.
Il y en a qui le font. Et c'est formidable. Moi, j'applaudis.
Et voilà, c'est ça. Bill Gates, sa femme, justement.
Ont beaucoup donné.
Oui. Justement, d'une façon, utilise leur fortune pour.
Jésus, quand il fustigeait les riches, il ne montrait pas du doigt les gens. Qui d'abord avaient beaucoup d'argent, mais des gens qui étaient esclaves de leur richesse.
C'est ça.
C'était devenu leur dieu, leur possession. Alors, bon, j'aime redire à nouveau, les linceuls n'ont pas de poche. Voilà. Quand on va mourir, on va mourir.
Parce que les femmes qui suivaient Jésus, qui l'aidaient, justement, elles étaient, il y avait des femmes de la haute société. Donc elles mettaient ce qu'elles avaient de bien.
Et voilà, des femmes de distinction. Oui. Et j'ai rencontré des gens riches qui ne font que distribuer des chèques partout, pour des associations, tout ça. Vous allez me dire, oui, c'est bien facile, hein. Ça leur permet d'avoir la conscience tranquille. Et là, on va un petit peu vite quand même, hein. Les petites gouttes d'eau forment les grandes rivières. Et si tous ceux qui ont un excédent d'argent apprennent à le distribuer, hein, Resto du Cœur, enfin, voilà, il y a quantité d'endroits. Maintenant, par Internet, ça se fait en quelques clics.
Oui, maintenant, avec tout ce qu'on a...
Trois minutes, ouais. Pas plus. Hein.
Oui. Vous allez sur le site. On trouve tout, mais encore faut-il l'utiliser dans la bonne façon.
Et hop, on fait un virement. Clac, c'est fait en quelques secondes. Eh ben, c'est bien. On aura pu aider nos frères. Or, on est là sur cette terre pour donner notre vie, je le redis encore. Et je vois Chantal qui fait un sourire. Mais c'est vrai, on est là pour donner notre vie. On n'est pas là d'abord pour jouir égoïstement.
Bien sûr.
On est là pour donner. Donner un sourire, donner une poignée de main, tendre la porte à l'autre, dans le métro ou ailleurs.
Oui, au lieu de laisser reclaquer.
L'autre jour, j'ai eu un pneu j'ai crevé, quoi. Hein. Et puis le pneu s'est même mis en lambeaux. Eh ben, il y avait quelqu'un d'une villa, un monsieur d'un certain âge de la villa, m'a vu. Il est venu
vous aider.
Eh ben, il s'est mis au boulot avec moi.
C'est beau, voilà, tout simplement.
Voilà.
Tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Hein.
Mais c'est tellement simple que beaucoup de gens ne le font plus et que les gens crèvent sans qu'on les regarde maintenant.
Ouais. Merci, Pasteur Philippe Osnet. Nous allons écouter tout de suite Albert, qui est patient et qui est en
ligne. Bonsoir, Chantal.
Bonsoir, Albert.
Bonsoir, Albert.
Voilà, bonsoir, Albert. Alors, dites-nous.
Oui, j'ai une question à vous poser. Doit-on fuir la vérité comme Adam et Ève devant Dieu ? Ou bien l'affronter comme Jésus pour l'amour du Père.
Oui, c'est une bonne question. Hein.
Mon père défunt me disait, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, Albert. Je lui répondais, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais pas toutes, papa.
Oui,
il y a des mots qui réconfortent et il y a aussi des mots qui tuent.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors donc là, il y a deux éléments dans votre question. Doit-on fuir la vérité comme Adam et Ève devant Dieu ? Alors, les textes bibliques de la Genèse nous disent que dès qu'Adam et Ève, enfin c'est surtout Ève, mais Adam n'a pas fait mieux, il l'a rejoint, quand ils se sont séparés de Dieu, parce que le péché c'est ça, c'est vivre séparé de Dieu. Alors, quand ils se sont séparés de Dieu, les textes nous disent qu'ils sont allés se cacher.
Oui, fuir.
Voilà, ils ont fui. Hein. Alors, fuir la vérité, c'est pas bon. Mais par contre, ne pas dire certaines choses, et ça c'est le volet 2 de votre question, ne pas dire certaines choses vraies, parce qu'on sait que l'autre ne le supportera pas, par exemple, ou qu'on va le blesser, ou alors c'est pas le moment de lui dire. Eh bien, ne pas le dire dans ce cas-là, c'est de la sagesse. C'est pas du mensonge, c'est pas de la fuite.
C'est de l'amour, parce que c'est savoir qu'il ne peut pas.
Mais Jésus, non.
Pardon ?
Adam et Ève étaient pécheurs, mais Jésus, non.
Ah ben. Jésus, non, bien sûr.
Adam et Ève étaient pécheurs par le serpent.
Oui, enfin, à cause du serpent, mais ils auraient pu éloigner le serpent d'un coup de chaussure, d'un coup de godasse.
Il n'y avait rien, ils étaient nus.
Ah oui, alors là. La Chantal, là, hein, je crois que même à la technique, on peut l'applaudir, là. Elle a été forte sur ce coup-là. Vraiment, là, elle m'a collé, mais en beauté ce soir. Ah, c'est comme un match de foot, là. Et vraiment, c'est bien, Chantal, c'est bien. Bon, alors, je vais dire un coup de pied.
Voilà, c'est ça.
Hein, un coup de pied. Voilà, alors donc... alors il y a certaines choses qui sont pas bonnes à dire et il y a le moment pour le dire et peut-être même faudra le taire, mais c'est pas du mensonge, c'est vraiment de la sagesse. Et heureusement que Dieu ne nous dit pas tout, par exemple.
Oui. Sur mais nous. Je pense que la vérité de Jésus, c'est l'amour et la résurrection, mon cher pasteur.
Pardon, c'est l'amour, vous dites?
Non, je pense que la vérité de Jésus, c'est l'amour et la résurrection. La mort et la résurrection.
Ben, sa mort et sa résurrection, oui, ouais. ça fait partie de la vérité, bien sûr. Oui, ça en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Hein, la vérité concerne tellement de choses qu'on ne saurait énumérer toutes ces choses.
Voltaire disait,
ce soir.
Plus les hommes sont éclairés, plus ils seront libres.
Et qui est-ce qui a dit ça?
Voltaire.
Eh ben alors, c'est bien.
C'est bien.
Oui, la lumière. Maintenant,
mais quelle lumière,
tout n'est pas bon à dire, hein. Tout n'est pas bon à dire. Et vous l'avez dit, Albert, hein, dans votre question, vous avez dit
une
parole peut tuer, une parole peut faire mal.
Peut réconforter aussi.
Voilà, une parole peut réconforter. Alors là, tout est une question de discernement, hein.
Oui.
Il faut arriver à discerner. Bah, c'est comme les mauvaises herbes, hein. Il y a des mauvaises herbes utiles.
Eh oui.
Et il y a des mauvaises herbes nuisibles. Hein. Et quelquefois, il est bon de conserver certaines mauvaises herbes parce qu'elles vont apporter quelque chose à la terre ou du moins aux plantes qui sont à côté. Alors, il faut discerner. Discerner, qu'est-ce que c'est ? Discerner, étymologiquement, c'est séparer. Hein ? Séparer. Je sépare le vrai du faux. Je sépare le mensonge donc de la vérité, etc., etc.
Oui, Einstein disait un mot, « Je veux connaître la pensée de Dieu et le reste n'est que détail. » Moi, je pense que la pensée de Dieu, comprendre Dieu, c'est trop facile. Oh, Dieu est trop bon. Mais comprendre l'homme et discerner Dieu est un vrai émerveillement.
Ben, en tout cas, on est appelé à tout discerner.
Oui.
Hein, sans devenir esclave d'un esprit d'analyse qui nous rendrait trop cérébral et rationnel, hein, ou oui. Rationalisant. Donc, on est appelé à tout discerner, les personnes, les choses, les couleurs, les goûts, ce qu'on aime dans la nourriture ou pas, ce qui est nuisible à l'homme ou pas. Donc là, c'est à chacun de développer ce sens. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le petit guide du discernement ». C'est donc aux éditions première partie. On peut se procurer le livre dans des librairies chrétiennes.
Discernement, c'est l'Esprit Saint, monsieur Pasteur.
Pardon ?
C'est l'Esprit Saint, discernement, c'est l'Esprit Saint.
J'ai mal compris.
Discernement, c'est l'Esprit Saint.
Discernement.
Alors, le discernement, vous dites c'est l'Esprit Saint. Non, le discernement, c'est une faculté. Que nous développons dans le temps et qui nous permet justement de faire des choix et qui nous permet de savoir ce qu'il y a derrière les choses ou les personnes. D'accord ?
Oui.
Et c'est une faculté humaine déjà que nous avons de par notre intelligence et nos émotions. Et d'autre part, il y a ce discernement spirituel qui nous est donné par l'Esprit de Dieu, vous venez de le dire.
Oui.
L'Esprit de Dieu qui va éclairer tout à coup notre discernement humain et peut-être même le transformer,
oui.
Le changer. Hein. Alors c'est à nous d'être réceptifs et de développer ces deux sens. Et dans mon livre, Le Petit Guide du Discernement, la première partie est consacrée au discernement humain. La deuxième partie, c'est le discernement spirituel. Et je dis que quelquefois, mais rarement, ces deux discernements peuvent se contredire. Quand Jésus dit « il va falloir que je monte à Jérusalem et que je sois livré par les anciens et les sacrificateurs et il faudra que le Fils de Dieu meure sur la croix » et que, bon, alors ça c'est, Jésus parle de la volonté de son Père.
Oui.
Et Pierre dit « non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas » et Jésus le reprend et va lui dire « arrière de moi Satan, tes pensées me sont en scandale ». Alors là, on voit que le discernement de Pierre, qui finalement voulait que Jésus vive, et c'est bien, c'est bien.
Humainement, bah oui.
Eh bien, le discernement spirituel de Jésus contredit ce discernement humain. Alors il y a quelques exemples où le discernement spirituel va contredire le discernement humain.
Et oui, par exemple, Dieu était baptisé dans l'eau.
Jésus a été baptisé.
Il marchait sur l'eau.
Non, ça c'est Pierre.
Zéro.
Pierre a marché sur l'eau.
La montagne, près du ciel. Oui.
Oui. Mais en tout cas, on pourrait continuer cette discussion longtemps.
Oui, c'est parce
que je le dis sympathiquement. On est au coin du feu, en quelque sorte. Hein.
Oui, c'est ça.
Et on se réchauffe. Bon, en tout cas, on est appelé à s'ouvrir, à discerner, et puis à laisser l'Esprit de Dieu nous éclairer dans beaucoup de choses de nos vies, et quel que soit notre âge. Merci Albert.
Merci
beaucoup.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir Albert. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.
Le point de vue de Mgr Michel Aupetit. Médecin, évêque auxiliaire de Paris, Mgr Michel Aupetit analyse les grands enjeux éthiques de notre temps. Le point de vue de Mgr Michel Aupetit, c'est tous les vendredis à 7h03 et 19h58 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Victor Loupin. Retrouvez-moi tous les mercredis à 11h30 et puis en rediffusion à 19h30 pour Écran Étoile, une nouvelle émission qui décortiquera pour vous toute l'actualité cinématographique et télévisuelle.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. qu'il soit pianiste, violoniste, violoncelliste, flûtiste, clarinettiste, chef d'orchestre, metteur en scène. Je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Histoire d'en parler.
Depuis 2 ans, je vais revivre pour vous les grandes figures de l'histoire spirituelle de la France, de Saint-François de Sales, Bossuet, Fénelon, jusqu'à Chateaubriand et Victor Hugo. Pour cette saison, je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte de Léon Blois, de Charles Péguy, de Paul Claudel et de beaucoup d'autres moins connus qui tous, humbles ou fervents, prêtres, écrivains, philosophes, polémistes, ont dans la lumière de la foi participé à la grande histoire de la pensée au service de la beauté et de la vérité.
Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les jeudis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, en compagnie du pasteur Philippe Osney, nous méditons sur la vérité, Jésus.
Et en compagnie de Chantal Bally.
Aussi, bien sûr.
Il faut le dire.
Il faut le dire aussi, juste. Bien sûr. Alors, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Lui seul peut nous rendre libres. Il faut que soyons bien d'accord là-dessus.
Il est la vérité, donc il représente la vérité. Voilà, il est la vérité lui-même. Donc, notre guide.
Ben oui.
Pour tout.
Pour tout, ben oui, ça va de soi. Hein. Mais encore faut-il. Voilà.
La vérité n'est pas forcément un recueil de choses spirituelles. La Bible est la vérité, mais Dieu est plus grand que la Bible. Dieu est plus grand que sa parole.
Bien sûr, oui.
Donc la vérité, c'est une personne d'abord, c'est pas un recueil, c'est pas des articles
personne.
De foi. D'abord, c'est une personne. Et maintenant, bien sûr, il y a des règles de foi, il y a des églises, il y a un ordre institué au niveau spirituel qu'il faut respecter.
Bien sûr. Et qui est vrai, qui émane aussi de... qui émane, hein, on est incarné.
Du ciel, oui, ça émane d'en haut.
Alors évidemment, les hommes qui sont mélangés, comme on disait, de l'eau et le... Mais il y a à vivre justement, progressivement, en épurant cette...
C'est ça.
Et c'est là où il y a vraiment une progression.
Oui, d'où l'intérêt de fréquenter l'église. Hein, je ne parle pas de l'église bâtiment, mais l'église, l'ensemble des chrétiens.
Oui, le corps du Christ.
Et puis les églises, bien sûr, dans
ben
lesquelles
oui, c'est ça, elles sont...
il y a des cultes et des réunions.
Incarnées, donc.
L'intérêt de par exemple, d'écouter la radio ce soir, où on va évoquer des
c'est
thèmes spirituels.
C'est en église, hein.
Voilà. C'est en église. Mmh. Mais on ne peut pas, rappelons-le, on ne peut pas être chrétien tout seul. Hein, le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Mais c'est pas nous.
Bien sûr.
C'est pas nous. Hein. Nous devons vivre comme des frères et sœurs sur la terre. Hein. Comme des frères et sœurs. Donc j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Comme
c'est
dans
là
une
quand
famille.
Deux ou trois sont réunis en mon nom.
Je suis au milieu d'eux, quand deux ou trois. C'est-à-dire que la puissance de la prière est beaucoup plus forte.
Un grand merci, pasteur Philippe Osney. Nous écoutons Julien, qui est en ligne. Bonsoir, Julien.
Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, monsieur le pasteur.
Bonsoir, Julien.
Alors, je voulais vous dire en préambule que je suis tombé sur votre radio. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise pour écouter longuement l'émission. Et
d'accord.
Je suis tombé sur vous. Ça m'a fait très plaisir parce que je suis un peu comme le roi héros en écoutant Jean-Baptiste quand je vous entends.
Oui.
Je ne sais pas si je me convertis à votre contact, mais j'aime vous entendre.
Bah écoutez, ça, c'est gentil.
Voilà, bah c'est surtout sincère. Et alors, voilà, je vous appelais pour mettre en avant deux choses qui me paraissaient importantes par rapport à votre discours, deux réactions que j'avais eues. L'une, par rapport à ce que vous dites de Pilate. De Pilate devant Jésus, qui lui demande qu'est-ce que la vérité.
Oui.
Et très souvent, il y a des gens qui disent, ben voilà, puis là, de toute façon, il pose cette question, mais il hausse les épaules et il continue à vaquer à ses occupations de procurateur qui doit faire son devoir épouvantable de crucifier Jésus. Alors moi, c'est pas du tout comme ça que je le lis, et je crois pas que le texte dise ça du tout. Je crois que le texte dit au contraire que Jésus se tait. Se tait pour laisser Pilate réfléchir à la question qu'il vient de poser, et ne pas se confronter de trop près à la deuxième question que je vais vous poser tout de suite pour éviter de faire un grand long tunnel. Et puis Jésus lui répondrait « Je suis la vérité ».
Oui.
Mais « Je suis la vérité », c'est très dangereux comme réponse, parce que c'est une, ça répond par « Voilà, la vérité est personnelle, la vérité c'est moi ». Et vous sentez bien que, surtout aujourd'hui, où nous avons quand même le souvenir de beaucoup de totalitarisme, etc.
Oui, oui, on en a parlé d'ailleurs pendant l'émission.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Je suis la vérité » et comment discerner, puisque vous avez écrit un livre sur le discernement, comment discerner, si vous voulez, entre quelqu'un qui vous dit « Je suis la vérité », à la limite Hitler disait « Je suis la vérité, suivez-moi ».
Ouais, c'est
la vérité personnelle, suivez-moi, et Jésus qui dit « Je suis la vérité », et je veux dire, malheureusement, les suiveurs, les disciples qui suivaient Hitler, qui suivent un gourou de secte ou qui suivent Jésus, je suis désolé de le dire humainement comme ça, mais ils ont toujours l'impression de suivre la vérité.
C'est certain, je comprends tout à fait votre raisonnement. Et ben, alors oui, se pose la question, vous le disiez, mais comment faire pour discerner là le vrai du faux? Quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a dit de lui, il vous conduira dans toute la vérité.
Tout entière.
Hein, la vérité tout entière. Bon, autrement dit, Jésus semble nous dire que pour connaître la vérité telle que lui il la vit, telle qu'il l'est d'ailleurs, puisqu'il dit « je suis la vérité », il semble nous indiquer qu'il y a un guide pour cela. Et c'est donc la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, qui ensuite sera envoyé après le départ de Jésus. Hein. Il l'a envoyé comme remplaçant, finalement. Alors, c'est ce Saint-Esprit, quand on l'accueille en nous, qui va, dans le temps, parce que ça prend du temps, explorer notre vie et nous conduire vers la vérité. C'est un cheminement long. Ça se fait pas en deux jours. Mais alors, je comprends bien votre question. Vous dites, oui, mais quand une personne affirme être la vérité,
oui,
ça devient dangereux, quoi. Et c'est la porte...
Oui. Pire que ça, je pourrais vous raconter une expérience que j'avais un meilleur ami quand on était gamin. On était dans un pensionnat de religieuses et on allait à la messe. Et un jour, je me retourne vers mon ami qui était un enfant de l'assistance publique et tout ça. Donc on avait une certaine densité de réflexion comme ça tous les deux. Et je me retourne vers lui, on était athée comme diable, qui n'est pas athée d'ailleurs. Et je lui dis, tu sais, hein, franchement, si n'importe qui, si Jésus était apparu en notre temps, nous qui n'y croyons pas, on aurait dit tout simplement c'est un fou, voilà, qui dit je suis la vérité, et puis ma foi tout le monde le croit, et...
Sauf que Jésus, lui, n'impose à personne, parce que c'est ce qui différencie le tyran, celui qui est dans le totalitarisme, etc. Ce qui va le différencier de Jésus, c'est que celui-là... qui est un humain, le tyran, lui, va imposer à ses sujets de penser comme lui.
Quiconque croit sera sauvé, quiconque ne croit pas sera condamné, il y a une imposition qui est similaire.
Ah ben, c'est pas une imposition, c'est une sélection qui se fait par elle-même. C'est-à-dire, admettons, il y a deux portes.
La sélection me fait froid dans le dos.
Ben, ça fait froid dans le dos, mais c'est pourtant comme ça. Il y a le bien et le mal. Je veux dire, pour qu'il y ait deux opposés, il faut qu'il y ait deux forces contraires. Bon, alors, Jésus parle aussi de la porte qui est étroite. Hein. Alors, imaginons qu'il y ait deux portes. Il y a des gens qui vont choisir... ils vont entrouvrir une porte, là. Et puis, ils regardent, ils se disent « Oh, c'est alléchant, ça !» Et puis ensuite, ils vont ouvrir une autre porte. Ils vont dire « Oh, ça, c'est moins tentant.
Oui. »
Ils vont faire un choix. Ben, la sélection s'opère par un choix libre. Et là, il n'y a pas de totalitarisme. Et quand Jésus dit « Je suis la vérité », mais qu'il n'impose rien à personne, je dirais même qu'il est un Dieu qui reste invisible. On ne peut pas être plus discret que de rester invisible, de jamais parler dans les haut-parleurs, de jamais s'imposer dans les rues. Il est venu simplement, pendant 3 ans, exercer son ministère, puis il est reparti.
Il a donné sa vie.
Et il a donné sa vie.
Alors que les dictateurs donnent pas leur vie.
Voilà,
hein.
Le dictateur, qu'est-ce qu'il fait? Il amasse du pognon. D'ailleurs, les dictateurs du continent africain, quelquefois, ont des comptes en banque en France.
Malheureusement,
Les banques ne disent rien. Elles disent rien, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors, je termine, mais très très vite, les dictateurs amassent pour eux. Ils ont des maisons partout. Alors, quelqu'un comme ça qui dirait « je suis la vérité », moi, je n'ai pas envie de le suivre. Par contre, Jésus, tout pauvre, marchant pieds nus, bon, comme on le faisait à l'époque, mais il aurait pu porter des sandales, comme faisaient les nobles. Ésaïe 53 nous dit qu'il était simple d'apparence. Je veux dire, il n'avait rien pour attirer les regards. C'était un homme qui vivait dans la souffrance. Ça, c'est attirant. Et puis surtout, Dieu me laisse libre. Alors, c'est peut-être ça la différence. C'est ça que je voulais vous dire, Julien.
Écoutez, si vous me permettez deux remarques, et je vous laisse tranquille. Une remarque à ce qu'a dit Chantal. Il a donné sa vie. Oui, il a donné sa vie, mais c'est pas si gratuit que ça, parce qu'il a donné sa vie, mais il faut la recevoir, il faut l'accueillir. Ça, c'est la première remarque. Et la seconde, la seconde, c'est par rapport à ce que vous aviez dit vous-même. Est-ce que vous identifieriez l'Esprit Saint à la conscience affinée, si vous voulez, dont les états d'âme s'affinent et dont les états intérieurs s'affinent d'un tel point que on puisse finalement savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs?
Alors non, ma réponse à votre deuxième question, c'est non. Notre conscience nous appartient, mais elle peut être éclairée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Lequel esprit vient d'ailleurs, il vient pas de nous, il vient d'en haut. Rappelons qu'à la Pentecôte, l'esprit a été reçu par les disciples. Il y avait des langues de feu sur leur tête. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et l'esprit a été reçu. Ils ont attendu un certain nombre de jours sans qu'il se passe rien. Donc l'esprit de Dieu va pénétrer en nous à notre demande, et puis va éclairer cette conscience. Il va la vivifier. Voyez, il va la vivifier. C'est comme si quelqu'un manquait d'eau, avait soif et vous lui donnez à boire. Tout à coup, le fait d'avoir bu, eh bien, cette personne, ça lui permet d'aller plus loin. Alors ça, c'est la réponse à ma première question, c'est-à-dire l'Esprit Saint va susurrer à mon esprit et à ma conscience quelque chose pour m'aider et pour exercer mon discernement. Alors la première question, vous dites, c'est pas tout à fait gratuit.
C'est pas si gratuit que ça, ouais.
Ben moi, je suis désolé. C'est gratuit. Moi, le 8 février 1973, je venais d'avoir 20 ans. J'étais à genoux dans une réunion de prière avec des jeunes. Et tout à coup, je me suis donné au Seigneur. J'ai réalisé que Jésus était mort pour moi. Eh bien, gratuitement, j'ai reçu l'Esprit Saint qui est rentré dans mon cœur. Gratuitement, j'ai reçu le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Gratuitement, j'ai reçu la grâce. J'ai reçu également le bénéfice de ce sacrifice de Jésus sur la croix, qui est quoi? Ben, principalement le pardon des péchés.
Oui, pasteur, mais ce que je voulais, là, je termine juste, vraiment. Quelqu'un qui est mort pour vous, il vous pèse d'un poids impressionnant. Tandis que je pense que pour moi, humainement, aimer quelqu'un, c'est peser sur lui le moins possible. C'est lui faire oublier votre présence.
Mais c'est ce qu'il fait.
C'est se retirer pour qu'il existe, comme dit
Jésus. C'est ce qu'il a fait. Mais
c'est ce que Jésus a fait. Il est remonté. C'est le jour de l'ascension. Il a tout planté, tout plaqué. Et il a dit, il faut que mon Père vous enverra un autre consolateur, etc. Il a tout lâché. Il n'est pas revenu. D'une manière visible, il n'est pas revenu encore, ça fait 2000 ans, mais il reviendra, la Bible dit qu'il reviendra. Je comprends, vos questions sont très intéressantes et témoignent d'une recherche
qui me torture tous les jours.
Sincère. Moi, j'allais dire, je vous discerne. Vous comprenez?
Oui.
Vous êtes sincère. Vous êtes vrai. Vous posez des questions qui vous travaillent. Mais Jésus, je suis désolé, ne pèse pas sur nous pour qu'on se donne à lui.
Dieu sait qu'il me pèse, et pourtant, vous voyez, je suis organiste, je suis catholique pratiquant.
Vous êtes engagé. Oui, mais là, vous êtes engagé déjà dans une église. Et quand vous dites que ça me pèse, bah oui, parce que tout vous rappelle. Vous êtes dans l'église souvent, donc pour jouer. Et tout vous rappelle la présence de Jésus. Et c'est en ce sens-là que la croix pèse sur vous. Je veux dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça pèse sur vous. Ce qui me paraît normal. Ce qui me paraît normal et ce qui me paraît bon signe pour votre vie. C'est un...
Prendre sa croix.
Bon augure, je veux dire, c'est...
J'ai pas compris, Chantal.
Prendre sa croix, suivre Jésus, le suivre, prendre sa croix.
Oui, mais le fardeau est léger, et je trouve que les chrétiens sont pas des gens légers.
Vous disiez, j'ai pas compris le début de votre phrase. Ça rend léger.
Je trouve que les chrétiens, généralement, ne sont pas des gens légers. Et prendre sa croix, enfin le fardeau de Jésus devrait être léger, d'après ce qu'il nous dit.
Mais il est léger, Jésus en a parlé, hein, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures.
Oui, justement, mais je trouve que ça se vérifie pas vraiment dans le...
Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, si ça se vérifie une fois qu'on le porte, mais non seulement qu'on le porte sur nous, mais à l'intérieur de nous. Hein, ça s'appelle la conversion, ça.
Voilà, oui, mais je sais, je ne suis pas converti. Moi, je me porte et ça me rend très lourd. Et je ne le porte pas et ça ne me rend pas léger.
Voilà, donc, en tout cas, je peux vous dire que le soir, sans faire de comparaison entre vous et moi, quoi qu'on pourrait en faire, hein, voilà, je suis aussi, on est tous aussi à la recherche de quelque chose. Hein, voilà. Bon, en tout cas, je peux vous dire que moi, le soir de ma conversion, hein, où j'avais vraiment les mains sales, le cœur impur, je me sentais le plus vil des hommes, et c'est vrai que je pratiquais des choses pas claires. Je peux vous dire que quand l'Esprit de Dieu m'a illuminé à l'intérieur, ça a été le plus beau jour de ma vie.
Ça m'est arrivé une fois aussi. Puis
ça vous est arrivé ? Alors, c'est le signe que Dieu veut vous toucher.
C'est gamin.
Eh bien,
croyant très jeune.
Eh bien, moi, ça m'est arrivé, et je vais vous dire, c'était pendant une messe dédiée aux chasseurs, et il y avait tous ces hommes.
J'ai connu ça aussi, la Saint-Hubert, oui.
La Saint-Hubert. Eh bien, il y avait tous ces hommes, ils viennent à 10 ou 15.
Oui, avec leur corps de chasse.
Voilà, alors ils viennent, je crois qu'ils étaient sur des chevaux jusqu'à l'entrée de l'église, et ensuite ils rentrent en procession. Et chaque année, quand il y avait cette messe avec les corps de chasse, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Pendant qu'il jouait. Et je sentais la présence de Dieu. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. Ce n'était pas simplement mes émotions qui bougeaient. Il y avait l'Esprit de Dieu, parce que mon père était un grand chasseur. Hein. Donc, il y avait l'Esprit de Dieu qui reposait sur moi. Et moi, je vous souhaite vraiment, Julien, que vous continuiez votre recherche. Vous n'êtes pas loin. Je vois que Chantal me dit qu'on doit écouter
En tout cas, vous êtes ému en le racontant et ça me touche beaucoup et je vous remercie.
C'est très gentil, Julien.
Merci, Julien.
Bonne continuation.
Bonne route.
Merci de votre intervention qui était très intéressante.
Bonsoir, Julien.
À bientôt.
Bonsoir. Voilà, nous allons écouter tout de suite, c'est la communauté de l'Emmanuel, « Ô Jésus, cœur brûlant d'amour ».
Radio Notre-Dame.
Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, agneau immolé, source de vie, torrent de grâce, viens guérir nos cœurs de tout péché. Source de vie, torrent de grâce, viens demeurer en sauve-nous.
Donc la communauté de l'Emmanuel au Jésus, cœur brûlant d'amour. Ce cœur brûlant d'amour, le Seigneur le veut pour chacun. Et je pense aux disciples d'Emmaüs.
Oui.
Hein,
oui.
C'est ça, qui cherchait la vérité. Là, on sentait tout à l'heure Julien vibrer dans cette recherche.
Ah oui, Julien, moi j'ai beaucoup accroché avec lui. D'ailleurs, lui avec moi aussi, d'après ce qu'il le disait. Dans le sens que Julien, c'est un homme qui, d'une manière très sincère, cherche Dieu.
Hein, et je pense et en vérité qu'il le cherche.
Il va le trouver. Oui. Il va le trouver. Il y a eu dans son enfance une marque déjà, et ça attire mon attention. Et donc depuis cette enfance, Dieu ne l'a jamais quitté.
Bien sûr.
Et si c'est lourd en ce moment, il nous disait oui, c'est lourd cette croix. C'est normal. Mais quand la croix descend dans notre cœur après, quand on se convertit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand on se donne à Jésus et que Jésus donc se donne à nous, il rentre en nous. Hein, eh bien là, les choses deviennent légères.
Et ça ne veut pas dire il y aura aussi des moments à traverser, des épreuves lourdes, mais c'est vivre la croix, passer par la croix, mais croix et résurrection, et après ça devient léger. Il y a des passages.
C'est un cycle, hein, de même qu'il y a l'automne et l'hiver. C'est pas très beau, on grelotte.
Il y a des passages.
Et puis il y a le printemps, et il y a les oiseaux. En ce moment. Là, cette période, Chantal, on entend les oiseaux le matin.
Oui.
Ils commencent à gazouiller. C'est bon signe.
Mais oui, ils sentent que le printemps arrive.
Ah, ils le sentent.
Ils le comme
sentent.
Il fait doux.
Il y a les jonquilles qui sortent. Hein, il va y avoir les primevères, il va y avoir les sureaux.
Oui.
Le sureau, c'est un des premiers petits arbres qui se couvrent de feuilles en premier. Ensuite, il y a les lilas, etc.
Il y a les personnages aussi,
oui,
avant.
Alors, les personnages qui sont là, même en janvier,
ben oui.
quand justement il y a de la neige, quelquefois. Bon, en tout cas, tout ça, c'est admirable. Mais c'est clair que le fait qu'il y ait un poids sur nous, qu'on se sente pas bien, malgré qu'on cherche Dieu, ça se comprend. Ça se comprend parce que tant qu'on n'a pas fait descendre la vérité de la tête au cœur,
c'est ça, ouais.
Et c'est pour chacun de nous, hein.
Bah oui, c'est ça tout le chemin que chacun a fait.
Et par époque de notre vie,
oui.
Parce qu'on aura toujours des choses à faire descendre de la tête au cœur. Tant qu'on les a seulement dans la tête, ça devient étouffant. C'est comme l'épreuve. Si on la vit d'abord cérébralement, c'est infernal.
Bah oui.
Si tout à coup on laisse descendre descendre cette épreuve, c'est pas ça que je voulais dire, mais si on l'analyse autrement que cérébralement, avec une intelligence spirituelle, avec une intuition spirituelle, alors cette épreuve est beaucoup moins lourde.
Bien sûr.
Beaucoup moins
lourde. Parce qu'il y a de la lumière qui... Voilà, c'est
mais
la
oui.
lumière...
Mais oui, et puis Dieu porte oui. aussi.
Et je pense à la parole du curé. Il y a une parole du curé d'Ars qui dit oui. « C'est la croix qui te porte, ça n'est pas toi qui la porte. »
Oui.
Quelque part, parce que
oui, c'est vrai.
Elle est lourde quand on la porte, mais oui. C'est elle qui...
Oui. Et croyons-nous que Jésus aurait imposé aux chrétiens des choses qu'il n'aurait pas pu faire? Non. Jésus a dit celui qui ne prend pas chaque jour sa croix, etc., et ne renonce pas à lui-même, n'est pas digne de moi.
D'être mon disciple.
Bon, et la croix qu'on doit porter, c'est pas une croix en bois, c'est quoi? C'est le fait de faire la volonté de Dieu. Alors, faudra qu'on fasse une émission là-dessus, sur ce verset.
Hein, oui.
Pour expliquer les deux volets de ce que Jésus a voulu dire dans son enseignement. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire dire non à la chair et à la volonté humaine. Et porter sa croix, c'est un acte positif. C'est donc s'ouvrir à la dimension de Dieu. C'est ça que ça veut dire, et à la volonté de Dieu. Mais Chantal, on va en faire une émission.
Oui, 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 voilà.
Et hop, on prend nos réservations.
Ben voilà, mais c'est notre auditeur, hein, c'est Julien qui nous suggère.
C'est Julien qui nous inspire, là. Hein. Alors, comme quoi?
Mais Jésus, enfin, on va pas déjà faire cette émission, mais maintenant, mais il y a un moment où ça bascule, au moment où Jésus, au moment crucial, dit si cette coupe peut s'éloigner, humainement, oui. peut s'éloigner de moi, mais tout de suite, non pas ma volonté,
mais ta volonté.
Voilà. Il y a là comme un.
Il y a un basculement.
C'est là où voilà, le passage se
fait. Il a renoncé à lui-même.
Oui.
Il l'a mis en pratique lui-même.
Ben oui.
Il a renoncé à lui-même et à sa sécurité, hein, sur la terre.
Il a lâché.
On voulait le faire roi, d'ailleurs, hein. Oui. Bon, alors, il y a renoncé pour, tout à coup, porter sa croix, et pas seulement la croix en bois, mais rentrer dans la volonté de son Père.
Oui. Mais la croix, toute l'humanité l'a portée, hein.
Ah oui, alors là ça a dû être lourd.
C'est lourd, oui.
C'est lourd au point qu'il est tombé par terre, au point que il a saigné, c'était horrible.
Il est sûr de sang.
Et quand on voit le film, c'est La Passion du Christ, je crois. Il existe en DVD, c'est bon de le revoir tous les 2-3 ans. On peut voir ces souffrances que Jésus a endurées. Hein, oui, on oublie quelquefois, on oublie, mais il faut se remémorer. De même que moi, j'ai visité Dachau, hein, et j'ai vu ils ont gardé en place certains fours crématoires, ils ont gardé en place certains baraquements, hein, et devant les fours crématoires, il y a des poutres, hein, et on disait à celui qu'on voulait assassiner, soit tu te pends maintenant, tu vois, il y a une corde, pends-toi toi-même, regarde, soit on te fout dans le... Hein, on va te cramer. Bon, eh bien, ces poutres, moi je les ai vues, donc c'est une seule poutre devant chaque four, quoi, une seule poutre. Eh bien, cette poutre, à un endroit, était toute... aidez-moi, Chantal...
Incurvée, non ?
Oui, c'est ça, incurvée, pourquoi ? Elle était usée, par quoi ? Par la corde. Ça veut dire que des milliers de personnes se sont pendues.
Plutôt, oui.
Ont préféré mourir asphyxiés, grâce à la pendaison.
Plutôt
des milliers de personnes, au point que ça a usé la poutre à cet endroit-là. Et ça restera gravé définitivement dans ma mémoire. De même que mon père qui se tournait de temps en temps et il me disait « Regarde ma hanche, là ». Et on voyait, dans sa chair, il y avait comme un trou, enfin c'était une cicatrice mal refermée. Bah, c'était un Allemand qui avait voulu le tuer avec une baïonnette. Il s'est tourné et il a pris la baïonnette dans l'os. Il a gardé la vie et c'est pas comme ça que je suis né. Bah, je peux vous dire, Chantal, que quand je me souviens de ça, j'ai envie de dire merci papa de t'être tourné. Parce que moi j'existe maintenant. Hein, je suis né beaucoup plus tard, au retour du camp. Alors c'est pour ça que le sacrifice de Jésus, ce qu'il a enduré, tout ça, c'est bon de se le commémorer à nouveau, d'y réfléchir, de vivre cette passion de Jésus. Et ensuite, on se dit, bon, mes problèmes finalement sont bien petits.
Oui, il a pris, il a vraiment, bah, il a pris sur lui hein,
tout.
Et nous c'est par rapport à ce qu'il a vécu, c'est bien peu de choses.
C'est bien peu de choses.
C'est participer quelque part.
On participe aux souffrances
du Christ. Avec
à notre mesure.
Oui.
À notre mesure. C'est pour ça que s'humilier devant la croix de Jésus, se mettre à genoux, regarder, contempler la croix. Nous les protestants on a des croix mais on ne met pas Jésus dessus quoi hein, la croix il n'y a rien dessus tandis que vous les catholiques vous représentez en général Jésus sur la croix,
oui.
Ben moi je dis que les deux ont raison,
oui,
et que une croix sans Jésus ça veut dire que Jésus a vaincu la mort,
oui, c'est ça, il est
passé, ressuscité,
oui, de l'autre côté,
et cette croix avec Jésus qui est dessus et qui saigne et qui a des clous dans les mains, veut me dire, eh bien Philippe, accepte de souffrir dans toute ta vie. Et puis voilà.
Les deux, hein, c'est les deux faces.
Et nous prions maintenant, ouais, puisque là c'est la fin de l'émission, que Dieu vraiment touche et bénisse toutes ces personnes qui ont participé à notre discussion. Et ont écouté cette émission. Soyez maintenant vraiment bénis de Dieu et recevez cette bénédiction. Amen.
Amen. Merci, merci Pasteur Philippe Osnet. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Daniel et à Monique qui vous accueillaient au standard ce soir et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, eh bien, nous retrouverons le Père Guy Gilbert et le thème de la soirée sera les fiançailles, une belle aventure pour la vie. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. Je vous dis à demain.